With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Le chip.
Le chip.
Le chip.
Un petit bruit buccal, subtilement dosé, le chip est en danger.
Rendez-nous le chip.
Kanye West se lance dans le droit constitutionnel, Emmanuel Macron s'est fait des amis pour la vie à Saint-Martin, et nous on déménage pour la troisième fois en trois saisons, ne bougez pas, vous écoutez le chip. Bonjour et bienvenue, vous écoutez le chip, je suis Kevin Donna, et je suis toujours accompagné de Mélanie Wonga.
Bonjour Kevin.
Et de François Oulac.
Salut Kevin.
Vous êtes chaud?
On est très chaud.
Cool. Ouais. Alors c'est quoi le chip?
Qui répond à la question?
Moi, je peux continuer. Qu'est-ce que c'est le chip? Le chip, c'est un podcast bimensuel de pop culture noire. On nous a pas forcé, c'est un choix délibéré. Je crois qu'on peut dire qu'on avait envie d'avoir un podcast qui se penche sur des questions qui nous concernent, qui se rapportent à nos identités.
Avec un autre point de vue que celui qui est habituellement...
Que le point de vue dominant,
ouais.
On va dire ça comme ça. On parle de musique, de ciné, de télé, de littérature, de questions de société et autres. Et je crois qu'on peut dire que c'est plutôt chouette. Ça a commencé il y a 2 ans,
ouais.
Chez Afrostream.
D'abord, ouais.
Rest in peace.
Ouais.
Ensuite, on a bougé chez Arte Radio.
Live in peace.
Voilà. Mm-hmm. Et puis là, on revient pour cette rentrée en octobre 2018 chez Binge Audio. On est bien content. Nouveau studio, nouveau visuel, nouveau générique. On remercie Schkid de nos phones pour le travail.
Ambiance très estivale, ce nouveau générique.
C'est ça. Moi, j'ai envie de repartir en vacances là. Et on est content d'être là, participer au grand remplacement à l'œuvre chez Binge Audio. On n'est pas tout seul en plus. On peut en mercato estival.
C'est vrai que ça a pas mal bougé.
Il y a Rokaya et Grace Lee pour Kif Taras et puis Jennifer, pas Jamie pour Miroir Miroir. C'est tout.
Gros pôle noir, hein, Bitch, gros pôle noir.
Voilà, c'est
Big
ça.
Up.
Mais avant tout, qui sommes-nous? Mélanie, tu commences?
Alors moi je m'appelle Mélanie Wanga, je suis journaliste et je travaille sur plusieurs projets, dont le Chip. Je suis aussi la deuxième moitié de Quad Meuf, qui est une newsletter féministe. Et j'ai un autre projet qui s'appelle Waya, qui rend hommage aux femmes noires à travers des photos et des articles.
Très très bien. Et toi, François?
Moi, je m'appelle François Oulac, je suis journaliste également, je travaille sur le chip et en même temps, je suis également journaliste à Loopsider, qui est un site de vidéos d'actualité à destination des réseaux sociaux, voilà.
Eh bien, moi-même, je suis Kevin Donna, pas journaliste, je suis guide conférencier. J'ai monté il y a quelques années le Paris Noir, c'est un projet qui retrace à travers des balades les parcours de grandes personnalités venues du monde noir et passées par Paris. Et puis mon autre passion dans la vie, évidemment, c'est le chip.
Et le stand-up.
Et les podcasts en général.
Non, cette année, j'ai décidé de revenir en force pour le chip pour jouer le rôle de l'avocat du diable blanc. C'est ça, des trucs genre, ouais, mais Rachel Dolezal, quand même, elle a l'air de beaucoup souffrir. Est-ce que vous seriez pas un peu dur avec elle? Des trucs un peu comme ça. Voilà.
J'ai hâte que tu sois mon Yann Moix.
C'est ça. Et puis avant aussi, un merci à tous les OG qui nous suivent depuis le début et qui nous envoient plein de love. Merci.
Et qui du coup vont se réabonner encore une fois à un nouveau flux RSS.
Merci.
Cette semaine, François va nous poser une question épineuse. Faut-il arrêter de parler de race avec ses amis blancs? Pour y répondre, on a lu le livre événement Why I'm No Longer Talking About Race with White People en VF. Le racisme est un problème de blanc qui vient de paraître en France. Et puis dans la deuxième partie, Mel, qui revient de Californie, va nous dire si c'est mieux d'être en couple mixte en France ou aux États-Unis.
Mmh. C'est une question très épineuse, en effet. Ouais.
Les deux, en fait, sont très épineuses.
Les deux, on va se faire des copains. Une actualité, une sentence. François, tu commences avec le voyage de notre président dans les colonies, dans les Outre-mer. Emmanuel Macron.
Oui.
En Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, partout.
Oui. Alors, pour mon premier trash iconique de cette nouvelle saison du Chip, je voulais vous parler de la visite d'Emmanuel Macron aux Antilles, qui a eu lieu il y a une semaine. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron m'a rendu heureux. Je vais pas vous parler. Je vais pas vous parler de la photo de Macron à Saint-Martin avec les deux jeunes noirs torse nu. Ça a fait polémique, ça a beaucoup tourné. Chacun a son avis là-dessus. Chacun se fera sa propre opinion. Non, moi, je vais vous parler de la visite d'Emmanuel Macron en Guadeloupe, dans une petite commune que je connais bien puisque mes parents ainsi que mes oncles et tantes y habitent. Une petite commune près de la ville de Petit-Bourg appelée Goyave.
Goyave ?
Non, Goyave.
Ah.
Macron est venu à Goyave pour parler du problème des sargasses, ces algues qui envahissent les littoraux maintenant des îles des Caraïbes et qui deviennent un vrai problème, une vraie catastrophe écologique d'ailleurs. Et donc, je voudrais que vous écoutiez cet extrait de la venue de Macron à Goyave où il répond en fait à la question d'une habitante.
Oui, allez-y. Alors, pour la commune de Goyave, c'est fait.
Mm-hmm.
Les équipements, le matériel a été acheté, et donc ça a été fait dans les derniers mois. Si vous avez une crise comme celle que vous avez eue à l'été dernier, le ramassage sera fait dans les 48 heures. Donc pour la commune, c'est fait. Il y a, je crois, 25 capteurs qui ont été déployés. On va continuer là-dessus sur les capteurs et ça à l'améliorer. Et on va équiper toutes les communes qui sont exposées à ce risque, comme cela a été fait... pour Goyave.
Pour
le maire s'est mobilisé de manière remarquable avec les services que je remercie. Les services de l'État l'ont accompagné, les financements aussi.
C'est donc validé.
Donc pour Goyave, c'est fait, madame. Pas de délai.
Pas de délai pour Goyave. Donc Macron a bien dit Goyave. Mon père.
Il a vu le sondage du chip sur Twitter.
Je pense, il y a longtemps, pour les OGs, pour les Day Ones. Mon père était dans l'assistance, il peut confirmer, je lui ai envoyé un message sur WhatsApp, je vous enverrai une capture d'écran s'il le faut. Faut savoir en fait que je fais partie d'un groupe de guérilla linguistique appelé le Front de Libération de la Goyave. On milite en fait pour que les métropolitains arrête de prononcer Goyave au mépris de la phonétique française, de l'étymologie originale du mot, puisque ça vient de l'arawak Goyaba, et du respect, accessoirement. Voilà. Donc Macron, c'est une belle prise de guerre pour nous, puisque même le dictionnaire nous donne tort, alors que, évidemment, la Goyave.
On a raison.
Bien sûr, puisque la Goyave n'existant que dans les Antilles, les Antillais sont naturellement dépositaires de la prononciation originale du mot. Voilà. Donc en gros, Macron, c'est une belle prise de guerre pour nous, et je voudrais remercier Emmanuel Macron pour ce bel acte de courage au nom du Front de Libération de la Goyave. Vive la France et vive la République.
Alors moi, je décerne un iconique à Fary pour son analyse sur les propos racistes d'Éric Zemmour, qui, Éric Zemmour est en roue libre. Il s'est mis à faire des tests ADN sur les prénoms des gens sur C8 au KLM. Lui, Fary, il nous invite en fait à troller Zemmour et à le troller par la malice. Et quand je dis « nous », je parle des gens détenteurs de prénoms pas dans le calendrier, comme Kevin, par exemple.
Sans haine.
Voilà, c'est ça. Donc vous allez comprendre. Insert.
Regarde. C'est ce qu'on devrait faire. On devrait faire en sorte de tous croiser Éric Zemmour, mais pas pour lui mettre un coup de pression, ok? Juste pour passer à côté de lui comme ça et faire. Oups. Bah qu'est-ce que j'ai fait tomber? Mais ce serait pas un passeport français, ça? Mais c'est moi, là. Mais c'est pas du tout chrétien comme prénom, ça. Il y a une carte d'identité. Ramenez la carte à la maison. Allez, Eric. Allez les noirs, Eric. Allez les noirs.
Pas mal.
Donc voilà, déjà ça, bien. Et puis ensuite, il revient sur la polémique de la rentrée, l'affaire donc Absa Toussi, Éric Zemmour. Et il fait remarquer que tout va trop vite dans la tête de tonton Éric et que c'est louche.
Regarde bien la scène et regarde la rapidité avec laquelle il répond le prénom. Elle dit « Ouais, et je devrais m'appeler comment ?» Elle dit « Corinne, et ça vient beaucoup trop vite. » Il l'avait déjà en tête. C'est-à-dire qu'il pense à Absatou devant son écran. Il lui donne des prénoms. Il est là « Oh, Corinne, c'est comme ça que je t'appellerai. » C'est peut-être Éric Zemmour, quand il arrive dans un endroit où il n'y a que des Noirs, il leur donne des prénoms dans sa tête. Il arrive et il dit « Toi, Patrick. »
En fait, tout a commencé par une sorte de discussion, débat sur le prénom Zora que Rachida Dati a donné à sa fille. Et en fait, c'est une obsession chez Zemmour. Il blâme une modification de 93 du Code civil qui assouplit les règles concernant les prénoms acceptés à l'état civil.
Mmh.
Et pour lui, c'est le début de la fin de la civilisation, du génocide blanc et de la fin de la France.
Mais alors, j'ai une question. Il dit quoi des gens qui s'appellent Dylan et Brenda depuis cette modification ?
J'y viens.
Ah.
Donc il ajoute par derrière aussi que la France n'est pas une terre vierge, blablabla. Donc ça m'évoque deux choses. La première, c'est un article du Monde qui s'appelle Non, Éric Zemmour, on pouvait déjà s'appeler Absatou, William ou Natacha avant 1993.
Il s'était fact-checker la tronche pour parler des codeurs.
Parce qu'en fait, en France, les premières lois encadrant, limitant les prénoms qu'on donne, c'est sous Napoléon, un grand moment de démocratie, n'est-ce pas ? Mais le véritable assouplissement, c'est pas en 93 sous les socialistes, sous Mitterrand comme... comme Zemmour aime le faire remarquer, mais c'est en 1966 sous le général de Gaulle. Et en fait, je vais vous citer juste un petit extrait d'une circulaire du ministère de la Justice. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc ça date de 66. Les enfants français doivent normalement recevoir des prénoms français. Mais les prénoms étrangers tels que Yvan, Nadine, Manfred, James, etc., ils sont mentionnés comme largement tolérés.
Nadine, c'est étranger ?
Nadine
Morano.
Déjà, même son nom de famille, Morano. Enfin,
oui,
bref,
bien sûr.
Je vais pas commencer à faire des tests ADN sur les noms des gens.
Pas très français, tout ça.
Par ailleurs, le même texte préconise l'admission des prénoms coraniques pour les enfants de français musulmans, tout en conseillant d'adjoindre un prénom français pour permettre ultérieurement une meilleure assimilation. Mmh. En revanche, il demande aux officiers d'état civil de rejeter les prénoms de pure fantaisie. Alors, je vais vous dire, c'est très subjectif, parce que le mien est passé, hein, c'est un prénom de pure fantaisie, Kevi, donc ça passe. Mais aussi, toutes ces lois-là, c'était avant d'être une façon de claquer la porte de la francité au nez des envahisseurs, c'était avant tout une hostilité aux différences régionales. Mmh. Par exemple, un prénom, et les prénoms basques. Big Chante Lizarazu, il a changé son nom à l'âge adulte, à l'état civil, on lui a mis Vincent. Donc il y a plein de choses comme ça où c'est pas juste une question de francité par rapport au calendrier chrétien, etc. Bref. Et la deuxième chose que ça m'évoque, c'est un article de Libé qui s'appelle Rentrée télé, dispute à clic, et qui revient sur le climat nauséabond qu'il y a dans le PAF, dans les talk shows français en ce moment.
Oh, non, je trouve pas.
Il parle même d'une berlusconisation de la télévision française. Les émissions de débat sont à bout de souffle, et encore, quand je dis à bout de souffle, je suis gentil, je pense. Mmh. Le mot que je pense est plutôt complètement pété, avec des Ardisson, des Ruquier, des Pascal Praud et des Hanouna en boucle, qui reçoivent les mêmes polémistes pour faire des mêmes buzz de plus en plus bas de gamme, de plus en plus trash. Donc éteignez vos télévisions et écoutez des podcasts.
Alors, on va essayer un nouveau truc pour cette nouvelle saison, le trashico des réseaux.
Le trashico des twittos.
Le trashico des réseaux. On va vous demander à chaque fois votre avis sur quelque chose, et on va vous demander de voter tout simplement pour voir si c'est trash ou iconique. Je me suis dit qu'on aurait dû faire une bande-annonce ou un truc comme ça, genre le trashico, le nouveau trashiconique des réseaux.
In a word.
Avec des témoignages. Moi, grâce au trashico des réseaux, j'ai l'impression de vraiment participer au chip. Je peux voter, ils réagissent en direct, c'est génial.
Non, pas cette fois.
Bref, alors cette semaine, on vous a demandé ce que vous pensiez de la polémique autour de Nick Conrad. Donc Nick Conrad, c'est un rappeur de Noisy-le-Grand qui a créé un tollé à cause d'un clip appelé Pendez les Blancs, dans lequel il appelle à assassiner, à réduire en esclavage et donc notamment, nommément à pendre les personnes blanches.
Faut pas faire ça.
Ne le faites pas. Ça peut plus ou moins être le...
Au 19e siècle, c'était quand même en vogue ce genre de...
Les Blancs...
Non, mais appelé à la... à la colonisation. Bon, bref.
Tout à fait, certes. Alors, il y a pas mal de rimes hardcore dans le clip. Une vidéo de 9 minutes où il met un gun dans la bouche d'un blanc, il lui écrase la tête sur un trottoir, on voit le blanc pendu, etc. On peut écouter un petit extrait, peut-être, pour...
Je rentre dans des crèches, j'ai des bébés blancs, attraper les vite et pendre leurs parents. Écarte-les pour passer le temps, divertir les enfants noirs de tout âge, petits et grands. Fouettez les forts, faites-le franchement. Que ça pue la mort, que ça puisse le sang pendu aux arbres dans le vide sidéral. Que ces fruits immondes procurent un spectacle fascinant. Macabre, effrayant, vise comme il se meuve. Blafard et marrant. Oh,
c'est assez vénère quand même.
Et le beat.
C'est assez vénère.
Mettez leur nom sur vos testaments, yeah. On se délègue à mesure du temps qu'ils nous appartiennent dans les profondeurs de leur inconscient.
Tu vois, quand il dit mettez-les sur votre testament, quand même, c'est bien une belle référence à ce qui se passait justement avec
l'esclavage
notamment. Donc, ouais. Bref, indignation après ce clip de la fachosphère et de certains médias qui crient au racisme anti-blanc. Et puis surtout, comparution en janvier devant la justice pour Nick Conrad pour provocation directe à commettre des atteintes à la vie.
En janvier 2019 ?
En janvier 2019. Donc, on verra comment ça se déroule, comment ça se passe pour Nick Conrad. On vous a demandé du coup ce que vous pensiez de cette histoire. Vous avez été sur Twitter 31% à dire que c'était trash, 49% à dire que c'était iconique et 20% à avoir le sens de l'humour et à dire quoi, Nick Conrad, l'ex de Mariah Carey.
Est-ce qu'on fait un deuxième tour du coup?
Comment ça?
Bah, avec maintenant les deux premiers, est-ce qu'après il y aura un deuxième tour comme pour des élections?
Ah oui. Du coup l'iconique est en ballotage et tout ça. Donc il y a quand même 49% de gens qui sont en mode ouais, non mais pour les blancs, ouais, je suis totalement OK avec ça. Je savais pas que nos auditeurs étaient
on
aussi
on se retrouve dimanche après-midi.
Les auditeurs sont assez vénères quand même.
Mais alors moi juste je voulais juste dire que ça me fait penser quand les féministes ou les femmes en général disent men are trash, kill all men, en fait ce truc de misandrie en fait. Lui, je connais pas la chanson et je connais pas exactement les circonstances, mais ce truc des minorités, en fait, qui disent on en a marre, kill all men, tuez tous les hommes, vous nous avez saoulés, par exemple, souvent, c'est quand même dû au fait qu'en vrai, ça pourrait jamais arriver, quoi. C'est-à-dire que les féminicides, il y en a eu beaucoup, les personnes noires qui se sont fait tuer en masse, les génocides, il y en a eu beaucoup, mais l'inverse n'a jamais existé, n'a jamais été fait de cette manière-là, et en tout cas, contextualisé de cette manière-là. Voilà.
Pas un niveau systémique, mais un niveau domestique, tu peux tuer ton blanc, tu peux tuer ton homme, tu peux... Au niveau local, on peut avoir des initiatives
chez
personnelles.
Chez toi, tu peux.
Mais, oui, parce que,
mais voilà, au niveau global, ça... c'est jamais arrivé. Oui, donc oui, effectivement, ça a moins de poids que quand les fachos disent hey, « tuez tous les juifs !»
Oui, ça s'adosse pas du tout
à une réalité.
Alors, il y a une auditrice qui s'appelle Patate Panda, qui résume exactement ce que je pense. Alors, elle dit « Le morceau n'est ni trash ni iconique, il vaut ce qu'il vaut et chacun a son avis. Les indignations contre le racisme blanc, par contre, sont trash. Mmh. Et la réponse de Nick Conrad est iconique. » Donc, elle fait référence à la réponse que Nick Conrad a faite dans une interview, une vidéo qu'il a donnée aux Parisiens. Moi, à titre personnel, je me demande en fait pourquoi ce clip il choque tant. Évidemment, esthétiquement.
Bah, t'as vu l'ambiance dans laquelle on est aussi, quoi. Enfin...
Ouais, mais non, justement, parce que l'ambiance elle est contre nous, pas contre les blancs. Donc, évidemment que esthétiquement parlant, bah oui, le clip, il y a des images dures. Et les lyrics sont durs, bien sûr. Mais tout comme quand tu vas mater un film d'horreur, t'auras des images dures. Tout comme quand tu vas mater le JT, t'auras des images dures.
Quand tu mates de la fiction comme American History X, qu'il référence dans son
voilà,
clip, surtout l'image
tu auras les images
sur le trottoir et tout. Ouais.
Exactement. Ouais. En fait, Nick Conrad, du coup, l'a expliqué lui-même dans une vidéo, dans la vidéo du Parisien. Ce qu'il fait, en fait, c'est une inversion, tout simplement, des codes de la culture du lynchage, de la culture de la ratonnade, finalement, de la culture de la violence raciale dont ont été victimes et dont sont toujours victimes les personnes racisées.
Il est arrivé avec les reçus historiques en mode oui, alors je me suis inspiré de.
Mais oui, la vidéo, la réponse du mec est vraiment super construite, super argumentée. Donc, il fait tout simplement une subversion, lui-même parle d'effet miroir et donc en ce sens-là je vois pas en quoi il y a quelque chose de choquant là-dedans.
Mais quand tu disais que l'ambiance est contre nous, moi ce que je voulais dire c'était qu'on est quand même dans un moment de renforcement de l'identité suprématie blanche, donc
non,
en fait
mais...
forcément quand tu remets en question ça aussi
on est dans un moment de crispation, voilà. C'est clair. L'autre chose qui me fait m'interroger, c'est que bon, faut quand même rappeler que le racisme blanc anti-blanc n'existe pas, il ne fait pas système,
il ne s'adosse. Existe.
Voilà, tu vois, donc il s'adosse à aucune réalité historique, à aucune institution,
à
aucune
culture. Il n'y a pas beaucoup de blancs quand même à l'Assemblée nationale, hein, il y en a pas beaucoup.
Voilà, par exemple. Donc
il n'y a que des Français, madame.
Donc faut arrêter avec ça. Et puis j'aimerais bien aussi qu'on cesse de retirer au rap en fait sa licence poétique. Il s'agit d'un art et d'un moyen d'expression comme un autre. À ne pas prendre forcément au premier degré. Et donc voilà, quand Vald rap shoot un ministre, il dit pas qu'il faut aller vraiment shooter un ministre. Il dit, si t'as un gun, tu vas tuer quelqu'un. Bon, t'as déjà ton gun, tu vas tuer quelqu'un, tu sais pas qui, tu vas prendre une vie innocente. Bon, autant que ce soit un membre du gouvernement, tu vois, de préférence. Mais il dit pas, va shooter un ministre. Quand Booba, dans le Duc de Boulogne...
Le hip-hop pour les nuls.
C'est pas un podcast de droit, hein, je pense.
Et Val n'a pas été inculpé pour incitation au meurtre. Quand Booba, dans le Duc de Boulogne, dit, je fais des dons d'urine pour que la France entière se désaltère, scoop. Il ne fait pas réellement des dons d'urine pour que la France entière se désaltère. On est 66 millions de Français, Booba, il a une seule vessie. Booba n'est jamais allé.
D'accord, la fiction. On comprend le concept.
Booba n'est jamais allé pisser dans un château d'eau, dans une réserve d'eau potable. Donc voilà, j'aimerais bien que les gens commencent un peu à réfléchir deux minutes et à se calmer avec ça.
Et merci les Black Skinhead qui écoutent le chip. Donc.
Et donc merci aussi d'avoir, du coup, merci aux auditeurs d'avoir voté. On fera ça
la semaine
prochaine. Est-ce qu'il faut À votre avis, couper les liens avec ses amis blancs problématiques ? C'est la question que j'avais envie de poser dans ce premier épisode. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a un livre qui a fait beaucoup de bruit en Grande-Bretagne, qu'on a tous les trois lu, qui s'appelle « Why I'm no longer talking to white people about race » de Renée Dolloge, qui est une journaliste, écrivaine, blogueuse britannique. Elle a même pas 30 ans, mais elle est déjà très en vue dans son pays. Elle est d'origine nigériane, c'est une femme noire donc. Et donc le livre explique comment les rapports de race, de genre, de classe se sont construits en Grande-Bretagne. Il vient de sortir en France, donc sous le titre « Le racisme est un problème de blanc ». Bon,
j'ai un problème avec ouais, le titre.
On pense qu'on veut du titre, mais en tout cas, on vous conseille de lire le bouquin. Et ce qu'il faut savoir en fait aussi sur Renée Dolloge, c'est qu'elle est devenue célèbre grâce à un article posté sur son blog il y a 4 ans, qui justement s'appelait de la même manière « Why I'm no longer talking about race with white people », où elle explique tout simplement pourquoi justement elle ne veut plus parler de racisme avec les blancs. En fait, elle décrit la réaction défensive que les blancs ont lorsque elle, en tant que femme noire, aborde le sujet de la race. Je vous cite un rapide passage. Leurs yeux se ternissent d'ennui ou s'écarquillent d'indignation. Leurs lèvres se pincent de désapprobation. Leur bouche s'ouvre grand pour vous interrompre. Bref, à chaque fois qu'elle parle de racisme avec les blancs, elle se retrouve face à ce qu'elle appelle une barrière de déni, une sorte de mur d'incompréhension qui renie sa souffrance et son expérience à elle. Je pense qu'on a tous les trois vécu ça en tant que personne racisée. Je me cours pas.
Ouais, bah, bien sûr.
Et donc elle dit en gros c'est que c'est chiant en fait. Simplement c'est chiant, c'est difficile.
C'est
et donc c'est fatigant et elle veut plus payer ce coût émotionnel, donc elle part plus au blanc. Et quand j'ai lu cet article et ce livre, j'ai immédiatement pensé à un pote à moi. Je vais changer son prénom, on va l'appeler Jérôme.
Okay.
Voilà, Jérôme. Jérôme, je vais vous faire un petit portrait rapide. Jérôme, c'est un homme blanc d'une trentaine d'années qui vit à Paris, qui a un métier, qui a fait de longues études. Donc, il a un métier plutôt, c'est quelqu'un de, c'est un CSP+, on va dire. C'est un métier, il fait une profession intellectuelle. Ils partagent pas leurs idées, mais ils trouvent que bon, il faut laisser Éric Zemmour ou par exemple Dieudonné s'exprimer parce que liberté d'expression. Il dit que le racisme anti-blanc, ça existe. Mmh. Par exemple, tu vas en banlieue ou dans un pays à majorité noire, il suffit que finalement que les blancs soient en infériorité numérique.
Et on dit sale blanc.
Et voilà, et du coup, le racisme anti-blanc va exister. Donc, au mépris du coup de la structure même du racisme, qui en fait est une culture et une institution. Donc, peu importe. Il est d'origine espagnole, mais quand tu vas te faire une blague raciste, quand il fait une blague raciste et que je lui dis écoute, c'est pas cool de faire une blague raciste, il dit bah quoi, toi tu fais bien les blagues sur les espagnols, la paella, ou tu fais bien les blagues sur l'accent. Et donc j'ai du mal à lui faire comprendre, par exemple, à Jérôme, que avoir un nom espagnol, par exemple, être d'une autre nationalité, mais être blanc et européen, c'est pas la même chose que d'avoir une expérience de racisé et c'est pas le même niveau de déshumanisation. Mais bon. Jérôme chante le N-word quand il va dans un concert de rap. Et quand j'ai parlé à Jérôme de mon projet de podcast, je lui ai dit que j'aimerais bien faire un podcast et tout, on appelle ça le chip. Et il a dit tu trouves pas que c'est un peu communautaire quand même? Voilà, pour résumer, Jérôme.
Ton bon ami Jérôme.
Mon bon ami Jérôme trouve que le discours des minorités, le MeToo, Black Lives Matter, tout ça, c'est cool. Et c'est bien que ça existe, qu'on va vers une meilleure société, il pense. Mais bon, quand même, c'est parfois un peu agaçant et un peu victimaire, peut-être. Et puis que c'est un peu chiant que ce soit toujours la faute des hommes blancs. Quoi. Et donc, le prix émotionnel dont parle Renée Dolloge, en fait, dans le livre, l'incompréhension, le déni qu'elle évoque, j'ai souvent ressenti dans mes débats avec Jérôme. Justement, parce que c'est quelqu'un qui a une pensée très structurée, qui est quelqu'un de très intelligent, et donc du coup il défend activement finalement sa position de dominant et sa whiteness.
Son objectivité.
Exactement, son objectivité. Ouais c'est ça, son objectivité. Et donc à plusieurs reprises j'ai ressenti des bouffées de colère ou même de larmes me monter lorsque j'essayais de parler de race avec lui. Et donc j'ai décidé de plus parler de race avec lui. Le problème c'est que Jérôme est intelligent, Jérôme est drôle, Jérôme est cultivé, Jérôme décroche son téléphone à minuit quand j'ai un coup de mou et que j'ai besoin de discuter. Jérôme est fidèle en amitié, Jérôme est un de mes meilleurs potes. Et ça va pas changer. Je vais pas arrêter de voir Jérôme du jour au lendemain. Et pourtant, on n'est pas d'accord là-dessus. Donc, je me suis demandé comment on fait pour gérer ça, en fait. Comment on fait pour tout simplement gérer ce qui peut s'apparenter souvent à des micro-agressions lorsque la personne qui est en face de nous n'est pas un collègue de boulot ou le boulanger.
Ou un inconnu.
Qui n'est pas quelqu'un finalement qu'on peut cancel comme ça du jour au lendemain. Comment on fait en fait lorsqu'on ne peut pas dissocier le parent, l'ami, le frère, la sœur, le cousin de la personne blanche? Et comment on se protège? Est-ce que vous avez des Jérômes dans votre vie?
Oui, évidemment. Moi, notamment dans ma famille, parce qu'une part de ma famille est blanche. Mais j'étais en train de réfléchir à ta question et la première réponse qui me vient, effectivement, c'est de limiter les interactions sur ces sujets-là. En fait, il n'y a pas d'autre solution. Quand c'est des personnes avec qui tu as un lien émotionnel, avec qui tu as une histoire, avec qui tu as des échanges qui ne portent pas nécessairement sur la race, mais qui peuvent du coup être positifs, et que tu veux conserver cette partie-là de ta vie, en fait, tu ne peux pas être en conflit ouvert en permanence. J'entends les gens qui disent « Oui, mais si tu ne parles pas de ça avec eux, ils ne vont jamais évoluer. » Genre, tous les gens, au moment de l'élection de Trump, qui ont dit « Non, mais il faut, les Américains, il faut que vous parliez à vos familles et tout. » Mais moi, je pense que quand tu es une minorité, le prix à payer n'est pas le même que quand t'es blanc, par exemple, dans ce genre de conversation. Parce que toi, t'as quelque chose à perdre. Toi, t'as ton humanité qui est en jeu, en fait.
D'accord.
Donc, voilà.
T'es métisse, une partie de ta famille est blanche.
Ouais.
Et t'es déjà arrivé de te retrouver jusqu'où avec, dans une interaction, t'as une anecdote peut-être
Bien sûr, hein. Il m'est très souvent arrivé de me retrouver dans des situations, notamment dans des dîners de famille, où on défend le blackface d'Antoine Griezmann, mais là si j'ai une anecdote qui me vient, qui est très personnelle du coup, parce que ça concerne ma mère.
T'es sûr que tu veux raconter ça du coup quand même?
Ouais. Non, okay, je pense que c'est important parce que, en fait... Je pense qu'il y a beaucoup de personnes métisses qui sont confrontées parfois à des discours de leurs parents blancs, qui est assez problématique, dans le sens où on a l'impression que le parent blanc en question ne nous voit pas comme personne racisée. C'est-à-dire, il nous dit « Ah mais les Noirs, ils font ça !» Comme si nous, on n'était pas quand même en partie Noirs. Et non, moi, ce qui s'est passé avec ma mère, c'est sur l'histoire de Mamoudou Gassama, dont ça remonte à quelques mois, mais c'était le jeune homme qui avait escaladé un immeuble pour sauver un bébé qui allait potentiellement tomber. Et ma mère m'a sorti un truc qui m'a laissé complètement sur le cul, où en gros elle m'a dit « Ah mais c'est normal qu'il ait monté l'immeuble aussi vite, parce que moi qui ai vécu en Afrique, qui ai vécu en Afrique, j'ai vu que les hommes noirs, ils montent très vite aux arbres, parce qu'ils sont habitués à ça, parce que des fois, il faut aller chercher des noix de coco dans les arbres. Donc voilà, ils montent très très vite et c'est normal qu'il ait fait ça. Et puis physiquement, ça se voyait, il était prêt pour ça. On voit qu'ils ont une musculature plus développée. Enfin, elle est partie complètement en live, quoi.
Qu'est-ce que tu ressens quand
elle m'a dit ça, en fait, elle m'a dit, j'en ai parlé à plusieurs personnes et tout le monde m'a dit que c'était raciste. Est-ce que tu trouves que c'est raciste, toi? En gros, c'était pour ça qu'elle m'a parlé de ça.
Comment tu réagis?
Alors,
assieds-toi.
Disons qu'il y a des niveaux. Il y a des niveaux dans la discussion. Il y a des trucs où je me dis, bon, c'est pas la peine de rentrer dans une discussion, laisse tomber. Là, il y a aussi la configuration. Là, j'étais toute seule avec elle et ma petite sœur. C'est pas comme si on était avec les oncles et tantes, voilà. Mais là, en fait, moi, j'ai pété un câble, quoi. Je lui ai dit, mais tu peux pas tenir des propos comme ça. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Est-ce que tu te rends compte que ça justifie la colonisation, l'esclavage? Parce que les hommes noirs, ils ont pas la même musculature. Donc, voilà, en fait, ils sont pas tout à fait comme nous, quoi. Donc, en gros, je lui ai dit, sans me retenir, tout ce que je pensais. Je lui ai dit aussi sur le ton qui était cohérent avec ce que je ressentais, c'est-à-dire vraiment une indignation, un choc en fait, que ma propre mère puisse me dire des trucs comme ça. Et en face, j'ai eu quelqu'un qui était complètement... qui est tombé des nues. Elle est tombée des nues, en fait. Elle m'a dit, ah bon, mais je pensais pas du tout à ça, je pensais pas du tout à l'esclavage, je pensais pas du tout... pourquoi tu vas chercher des trucs comme ça? Donc, en fait, au final, c'était un choc sur le moment, mais je pense que j'ai réussi à faire comprendre ce que je ressentais et l'impact de ce qu'elle disait. Mais c'est une des rares situations où ça m'est arrivé, parce que effectivement, quand c'est ta mère, tu as une relation où tu peux plus dire les choses de manière...
Tu peux pas fuir, justement.
C'était là, quoi. Mais effectivement, c'est un truc qui m'a vraiment marqué, et je pense que si on avait été dans un cadre différent, par exemple, si on avait été à table avec d'autres personnes, ou si... Je sais pas comment j'aurais réagi.
Ça aurait été plus difficile à gérer, sachant que t'aurais été là seul contre
heureusement que j'ai pu dire ce que je ressentais, parce que sinon j'aurais très 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 mal vécu. C'était d'une violence en fait tellement tellement forte pour moi, et je me rendais même pas compte en fait que ma mère pouvait penser des trucs comme ça, et que en plus de donner la justification que beaucoup de personnes blanches qui ont été en Afrique ou qui ont été mariées avec des personnes noires se disent ah non mais je suis pas raciste, moi j'ai un mari noir, hein, et moi j'ai des enfants métis.
Ils voient ça comme un tampon de validation.
Ouais, c'est un passe, quoi, tu vois. Non mais
Mélanie, à peu près la même scène dans le bouquin de Rénie et de Lodge, mais en plus gore, c'est-à-dire que c'est une mère blanche qui parle à sa fille métisse de la taille du pénis des hommes noirs en prenant l'exemple de son père à elle. Donc pareil, tu vois, ce genre de truc, genre non, mais là,
dominant porn, hashtag, là, inceste, hashtag, tout ce que tu veux. Kevin, t'es arrivé des trucs comme ça aussi, toi qui as beaucoup d'amis de la majorité silencieuse.
Ouais, mais après, moi, je pense que je suis pas tout à fait dans le même rapport, parce que j'ai principalement grandi en Martinique et je suis arrivé ici à 20 ans. Donc déjà j'ai aussi un Jérôme, j'en ai même plusieurs, mais il y en a un en particulier qui s'appelle Albert.
C'est un vrai nom ou un faux nom aussi?
Non, mais non, c'est peut-être le cinquième mousquetaire.
C'est peut-être un faux nom. Un qui s'appelle Albert et c'est nos années d'études en fait dans les années 2000. Maintenant, je suis vieux et c'est un ami qui vient d'un milieu différent, d'un milieu assez aisé, d'une famille de droite qui l'assume et le revendique, mais qui d'un autre côté, a déjà été un ami très présent quand moi j'étais loin de la Martinique, etc. J'étais toujours le bienvenu dans sa famille. Mais aussi quelqu'un avec qui j'ai pu avoir des gros désaccords sur des trucs de théorie politique. Mais c'est aussi quelqu'un avec qui j'ai eu des discussions hyper intéressantes. Quelqu'un qui m'a aussi forcé à me sortir de ma zone de confort. Mais pour revenir un peu aux exemples que vous donniez, quand vous étiez avec des gens proches et que, voilà, que ce soit un ami proche ou quelqu'un de ta famille, moi, surtout, ce que je vois, c'est qu'on peut pas toujours avoir raison rapidement, tout de suite, et convaincre les gens. Ah, c'est-à-dire que, par exemple, des fois, François, je connais, j'ai rencontré ton ami Jérôme, et je tiens à dire que c'est plutôt un bon blanc.
Ah oui,
c'est un blanc, un blanc de qualité.
Mais tu sais, j'ai un pote qui est sauralien de Deniste et qui, s'il votait, parce qu'il vote pas, voterait FN, tu vois. Ouais. Mais je parle pas de lui, parce que finalement, lui, c'est facile à circonscrire. Le vrai sujet,
c'est les gens qui sont au milieu, quoi.
C'est les gens, voilà, entre guillemets, normaux, mais qui, pourtant,
Ce que je voulais dire, c'est que par exemple, je vois prendre des débats en disant « Bon, maintenant, t'arrêtes de dire black, faut pas dire black, faut dire noir. » Et je suis là « Mec, oui, t'as raison, mais c'est pas parce que t'as raison que tu dois prendre un quart d'heure nécessairement dans une conversation face à cinq blancs pour leur dire « À partir de maintenant, vous arrêtez de dire black, vous dites noir. »
Faut que je fasse ces 300 secondes de Napi des cahiers, en fait.
Explique justement.
On verra tout à l'heure sur ça, parce que voilà, il y a des techniques pour se protéger et je pense qu'il faut un peu les appliquer. Je vais un peu revenir aussi sur ce phénomène. La différence peut-être qu'il faut préciser, à mon sens, lorsqu'on est une personne racisée avec beaucoup d'amis et de proches blancs, c'est pas juste en fait des différences politiques. On parle pas juste d'avoir des amis qui ont des avis totalement différents, voilà, et irréconciliables sur, je sais pas moi, la politique ou la religion. Vous savez qu'on dit souvent dans un repas de famille, il faut jamais parler de politique et de religion, c'est les deux sujets clivants. On parle pas juste de ça là en fait, parce que être racisé avec un ami blanc, c'est
ton identité, quoi.
Voilà, et c'est autre chose, c'est plus profond. C'est prendre le risque en fait à tout moment de se retrouver dans une conversation qui va toucher à ton identité et où ton humanité sera niée. On parle de coût émotionnel parce que c'est plus difficile pour une personne racisée de parler de race avec un blanc qu'un blanc de parler de race avec une personne racisée. Il y a un coût émotionnel, il y a aussi un coût social. Je voulais vous parler d'une chercheuse qui s'appelle Robin DiAngelo, qui est américaine, qui est blanche, mais qui est américaine. Qui est blanche, mais qui est américaine. Ça compense. Elle a sorti un livre appelé White Fragility, donc la fragilité blanche. C'est un concept qu'elle a théorisé, où en fait, elle explique tout simplement pourquoi il est si difficile pour les personnes blanches de sortir de leur propre expérience, de ne pas considérer leur expérience comme universelle, et de parler de race. C'est exactement en fait ce dont Rainier Edo-Lodge parle également dans son livre lorsqu'elle essaie de déconstruire le privilège blanc et le racisme systémique. Donc il y a une vidéo de Robin DiAngelo où elle explique que non seulement nous, les personnes racisées, on prend cher lorsqu'on tente de parler de notre expérience aux blancs, mais on risque aussi de perdre des proches. Il y a un coût émotionnel, mais il y a un coût également social. Parce que moi, quand je me retrouve dans une conversation comme ça avec Jérôme, je sens, par exemple, que si je vais au bout de ma logique,
il va te dire, bah alors pourquoi on est amis, quoi.
Pas forcément comme ça, tu vois, mais j'ai l'impression de parfois qu'on risque de d'atteindre à des choses vraiment graves et d'atteindre des points de non-retour, et du coup je suis tiraillé entre la volonté de ne pas m'autocensurer et de dire ce que je pense et de le confronter, et la peur également d'aller trop loin et que la conversation escalade. Je vous passe juste le passage, bon, il est en anglais, mais le passage de Robin DiAngelo où elle explique ce coût social.
And we just have to understand that most people of color that are working or living in primarily white environments take home way more daily slights and hurts and insults than they bother talking to us about. Because their experiences, they're going to risk more punishment.
Plus de punition.
They're going to lose the relationship. They're going to have their experience minimized, explained away. They're going to cause the person to feel attacked or hurt. And in that way, white fragility functions as a kind of everyday white racial control.
En gros, c'est ce qu'elle dit, c'est que si tu vas trop loin dans la confrontation, en fait, tu vas perdre la relation, tu vas perdre la personne, tu vas la blesser dans sa fragilité blanche, et donc c'est un choix à perdant-perdant, finalement. Mmh. Et la fragilité blanche, finalement, est un outil puissant.
Un mécanisme de défense.
Voire la mécanique la plus puissante qu'on ait. Finalement, le socle du statu quo et de la suprématie blanche, c'est pas les nazillons qui courent dans les rues, c'est la fragilité blanche.
Ouais.
C'est l'instrument le plus puissant de régulation, de défense.
Alors
de
qu'en plus, ce que je trouve vachement fort dans ce qu'elle dit, c'est que quand tu parles d'une expérience raciste, on va dire « Ah, mais c'est pas grave ». Comme si, en fait, tu savais pas toi-même évaluer, t'avais pas déjà ton système d'évaluation ou des trucs. Bon, ça vaut pas la peine d'en parler, on s'en fout. Et qu'il y a vraiment un truc dont t'as envie de parler parce que tu trouves que ça veut vraiment dire quelque chose. Et là, tu as un blanc qui va dire non, mais ça va, c'est pas grave, c'est pas si grave que ça. Donc, ça, c'est hyper. Je trouve que c'est un des pires sentiments que tu peux ressentir. Quoi,
Martin Luther King, déjà, dans une lettre, dans sa correspondance, disait que, en fait, ce qu'il saoulait le plus dans le racisme systémique, c'est pas justement les mecs d'extrême droite.
C'est pas le clan, quoi.
C'est pas le Ku Klux Klan.
Parce
que ce racisme-là est facile à disqualifier, facile à identifier, facile à circonscrire. Ce qu'il saoule le plus, c'est ce qu'il appelle les white liberals, donc on va traduire par les blancs de gauche ou les blancs. Les blancs qui se disent progressistes et qui en fait se disent progressistes mais en fait ne bougeront pas de leur position, ne bougeront pas de leur confort, de leur tranquillité raciale, ils utilisent aussi ce mot en anglais, et ne vont pas en fait se remettre en cause pour que les choses changent.
Il y a un truc que j'aime beaucoup dans cette vidéo, alors qui n'est pas dans l'extrait qu'on a diffusé, mais c'est le fait déjà qu'elle commence en disant que le racisme, c'est pas seulement sur le terrain de la morale et de la pureté du cœur et tout ça. La deuxième chose, c'est qu'elle parle à la première personne aussi, en disant, mais bien sûr que j'ai baigné dans un environnement raciste, ça veut pas dire que je suis une mauvaise personne, ça veut juste dire que j'ai grandi dans une société où il y a du racisme. Et elle parle à la première personne, pas pour parler de ton nombril, mais ensuite pour arriver à ce qu'on a entendu et parler du coup que ça représente pour les personnes racisées de s'ouvrir sur ce qui les gêne, ce qui les dérange, ce qu'ils ont vécu, ce qui les a traumatisés, etc.
Ouais. Il y a des outils pour se protéger. Moi, je pense que si vous écoutez le chip, vous suivez peut-être sur Twitter une certaine femme qui s'appelle Marie Da Silva, alias Napili Kayo, dont le boulot est de protéger les femmes racisées dans l'environnement du travail et qui a développer tout un arsenal de techniques. Alors, certaines techniques, comme le boomerang de merde, ne marchent que dans le monde du travail, mais il y a une technique qui s'appelle les 300 secondes, qui est assez simple à appliquer, même dans votre vie personnelle, avec vos amis blancs, qui consiste tout simplement à ne pas accorder plus de 300 secondes à une discussion sur la race, avant
quand,
de...
Quand vous levez les un peu, ça devient 100 secondes, 60 secondes, 30
voilà.
secondes.
Plus vous prenez des XP, et plus... mais je pense que ça peut être une technique intéressante.
Pas plus de 300 secondes à essayer d'expliquer une problématique de racisme à une personne qui, en fait, va tout faire pour ne pas la comprendre.
Exactement. Mmh. Donc bon, on va pas trancher la question de toute façon aujourd'hui. J'ai pas de réponse forcément formelle à apporter, mais bon, à titre perso, je pense quand même qu'il faut se protéger. Lorsqu'on peut pas arrêter de simplement de parler de race justement avec les blancs, et il faut pas prendre en charge donc le coût émotionnel, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Mélanie.
Ouais. Et c'est pas aux minorités en fait de résoudre le racisme. C'est un travail d'ensemble. Tout le monde doit s'y mettre.
Exactement. Exactement. Voilà. C'est un travail d'ensemble. Donc je pense qu'il faut pas prendre le coût émotionnel de l'éducation des gens avec qui on n'est pas d'accord là-dessus. Moi, j'arrête de débattre. Personnellement, j'arrête de débattre. Des fois, je fais 300 secondes et puis j'arrête de débattre où j'envoie des liens. Au lieu de parler, j'envoie juste des liens. Je bombarde de liens argumentés. Comme ça, je laisse les gens qui sont plus intelligents que moi argumenter à ma place.
Ouais. Et ne débattez pas avec les avocats du diable aussi.
Ouais, c'est important parce que c'est vraiment...
Alors, tant qu'on est, je dirais quand même que...
parfois
il y en a des biens.
Et sinon, j'ai aussi un coup spécial qui peut pas, tout le monde peut pas le faire, mais je dis « Écoute mon podcast !» Tu veux savoir ce que j'en pense? Eh ben, je suis payé pour en parler. Écoute mon podcast.
Carte bonus.
Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous si vous avez des amis blancs comme ça, où vous avez des discussions qui vous ont mis mal à l'aise, et comment vous faites pour gérer ce genre de situation, parce que c'est quand même des gens que vous aimez et vous n'allez pas refaire le monde, vous n'allez pas virer ces gens de votre vie pour plein de raisons valables. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis ne perdez pas espoir. Quand j'observe ma relation avec Jérôme et la façon dont lui a évolué sur toutes les questions des minorités, je vois beaucoup de progrès. Je vois beaucoup de progrès. J'étais en soirée l'autre jour avec lui et il me parlait d'un ami commun à nous, un pote qu'on a tous les deux, qui est pioniste à 25 ans. Donc lui, il est vraiment
bien. Il le vit comment, l'exil de François?
Rends l'argent, s'il te plaît. à côté de ce mec-là, Jérôme, c'est un dangereux gauchiste, pour faire simple. Et donc, il parlait de race, justement. Je sais plus de quoi il parlait. C'est Jérôme qui me rapportait la conversation, mais il parlait de race. Et à un moment, il me dit, du coup, que notre ami fioniste dit à Jérôme, putain, mais t'arrives quoi, en fait? Mais tu t'es grave gauchisé. On est en train de te perdre, là, au contact de ces mecs et de ces meufs. Mais faut que t'arrêtes, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est une vraie. Je pense qu'il faut se protéger, il ne faut pas perdre le sens, parce que c'est une vraie satisfaction de voir.
Jérôme se remet un peu en question.
Voilà, et je pense que si vous voyez qu'il y a des évolutions possibles et que c'est des gens que vous aimez et qui vous aiment, je pense que ces gens-là seront capables, à votre contact, de faire l'effort.
Ouais. Mais moi, j'ai la même chose, j'ai des.
J'ai
des amis martiniquais qui me parlaient de quelques amis blancs à moi en me faisant remarquer, mais ouais, mais quand même, c'est des bons blancs, tu vois, des. Et tout, en fait, en vrai, tout le monde en retire une certaine fierté, en fait. Tu vois, premier blanc à homme, mâle, cisgenre, à faire, oui, mais en fait, il faut parler d'intersectionnalité. Là, je pense un peu, en fait, il a un petit frisson de fierté, donc ouais.
Mel, t'étais en Californie, c'est ça, et t'as eu des aventures.
Des aventures raciales.
Des aventures biracial.
Ouais. Alors, je suis allée en Californie pendant presque un mois. Et donc, j'ai visité Los Angeles, San Francisco et Las Vegas. Et notamment, il m'est arrivé deux petites anecdotes que j'avais envie de vous raconter. Donc la première, c'est je me promenais dans une rue de LA le soir. Alors il faut savoir qu'à LA, les gens ne se promènent pas dans la rue. Hein. Quand tu te promènes dans la rue, soit que tu es un crackhead ou un SDF.
Genre, ils roulent là-bas en fait.
Voilà, les gens ils roulent dans la rue jusque de magasin en magasin. Cool. Et donc nous, en bon français, on marchait donc, avec mon copain qui est blanc. Et là, un mec nous arrête, un mec noir qui nous dit. Alors, j'ai traduit un peu à la louche. Hein. Mais on était dans
tu
le quartier.
Tu peux faire en anglais plutôt?
je suis pas très sûre de mon accent. Mais en gros, on était dans le quartier des affaires et il nous dit le seul déficit ici, c'est votre quotient intellectuel. Forcément que tout va mal dans ce pays, avec les connasses comme toi qui respectent même pas leur histoire et qui sortent avec des blancs. Et après, il me dit espèce de pétasse noire qui suce la bite d'un redneck, t'as même pas idée de ce que tu fais.
Moi, ce qui me choque, c'est redneck dans ça. Je connais très bien ton compagnon et c'est beaucoup de choses, mais c'est pas redneck.
Il avait le cou un peu rouge à cause du soleil quand
même. Redhead.
Moi, du coup, je me suis fait une image mentale et j'imagine le sénateur dans The Wire qui fait chier comme ça avec son accent. J'imagine you white bitch, you black bitch, you suck in a redneck.
J'imagine c'est voilà, c'est exactement ça.
Okay, d'accord.
Sans le costume.
Sans le costard, du coup. Okay.
Voilà. Mais voilà, donc première expérience où on s'est regardé avec David et on a explosé de rire parce que voilà, au final, il a quand même pas mal déconstruit, on a quand même pas mal déconstruit tous les deux la race, tout ça. Il est conscient qu'il est blanc, il est conscient que je suis métisse. Mais voilà, première expérience. Deuxième expérience, on était à San Francisco dans une rue, un autre monsieur noir nous arrête et nous dit « Oh, you look cool !» vous êtes un super beau couple en fait, hein. Vous êtes vraiment magnifique, vous êtes très 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 beau, c'est rare de voir des gens comme vous. Et je lui dis comment ça? Il fait you got yourself a sister, en parlant à mon copain. Donc voilà, donc en fait ces deux expériences là.
T'aurais pu croire que vous étiez juste beau au début.
Je lui dis ah bon merci.
Ah, tu te sentais
vous
plus
aussi,
et puis, t'es tombé de la chaîne.
Mais voilà, et du coup ces deux expériences là, ça m'a fait réfléchir quoi. Je me suis dit waouh, c'est en France, c'est quand même très 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 rare qu'on m'arrête dans la rue pour me dire des trucs comme ça quoi. C'est surtout quand je suis avec mon copain. Et là du coup deux fois, bon c'était, on n'est pas resté longtemps, mais je trouvais que c'était assez symptomatique d'avoir deux types de réactions différentes, quand même assez assez fortes des deux côtés. Hein. Et du coup, ça m'a fait réfléchir sur les couples, le couple mixte. Qu'est-ce que ça veut dire en fait dans la vie des gens aux États-Unis et en France? Je me suis dit, il y a un truc, on n'est pas vu pareil en fait des deux côtés. Et du coup, effectivement, on en avait déjà parlé dans un précédent épisode, mais de comment les couples interraciaux étaient traités dans la pop culture.
Perçu, tout ça, ouais.
Perçu, donc à savoir que par exemple, dans les fictions américaines, souvent les noirs sortent avec des noirs, et quand il y a un couple mixte, c'est expressément un arc de la série, quoi. Enfin, on en parle, on dit oh là là. Il y a aussi des films qui parlent clairement de ce que c'est le couple mixte et de l'histoire, en fait, vraiment prégnante que ça a eu politiquement avec, par exemple, l'interdiction. Je sais pas, c'était officiel à un moment. Les gens n'avaient
pas. Bien sûr. Ouais, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça. Hein. Ouais, on aurait des surprises hein, si on regardait les dates dans certains États.
Ouais, c'est le 19e siècle, voire 20e, quoi.
Il y a des films sérieux sur le sujet. Moi, j'imaginais qu'il y avait que des rom-coms un peu à la con.
On parlait de Loving, qui avait été quand même un film avec Ruth Negga, qui avait été quand même un film, je crois, qui avait fait plusieurs festivals.
Okay,
ouais, sur le couple en particulier, qui a amené à ce que la loi change.
Avec une jurisprudence, quoi.
Ok, d'accord. Je savais pas qu'il y avait des films aussi cool sur le sujet.
Ouais. Et c'est vrai que les familles mixtes aux États-Unis, en tout cas dans la culture, c'est vu comme quelque chose de waouh, on n'est pas habitué à ça, quoi. Alors qu'en France, je trouve que comme les personnes métisses et comme les bébés métisses, où on dit c'est les plus beaux, ils sont géniaux, ils vont changer le monde, le métissage, enfin le couple mixte, c'est sublimé, quoi.
Mais c'est facile d'être une femme métisse, Mélanie, tu te rends pas compte de la chance que t'as ?
Ouais, ouais.
C'est privilégié, va.
Privilégié,
ça light skin.
Non mais bon, en gros, voilà, c'est les couples mixtes, j'ai l'impression, sont plus fréquents aussi dans la rue, on en voit plus.
Ouais.
Voilà. Et donc c'est moins oh, attention, arrêtez tout, quoi. Et dans la fiction française, pour faire un petit parallèle, on a quand même l'impression que quand il y a un personnage noir, bon, déjà, c'est pas si souvent que ça, mais quand il y en a un, il est généralement entouré de personnages blancs et dont un qui va de manière effective le sauver, quoi. Entre guillemets, il va vraiment il va lui apprendre et le tirer vers la blanchité et donc le faire évoluer. Et aussi, je veux juste terminer par ce côté un peu fétichisme des hommes noirs, quoi. Le côté vraiment, et des femmes noires aussi, hein. Ce côté, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont exotiques, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et donc, on les aime, quoi. En tout cas, je parle vraiment dans la sphère du romantisme et ça n'a pas toujours été comme ça. Mais bon, je sais pas, vous, est-ce que vous avez des petites expériences sur la mixité qui vous viennent et est-ce que vous avez du vécu ?
Sur la question de l'expérience américaine, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que j'ai, il y a très longtemps, été en couple avec une femme blanche et on a passé du temps ensemble à New York dans un quartier qui s'appelle Bushwick, qui c'était il y a une dizaine d'années, avant d'être gentrifié, était un quartier très, 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 très majoritairement noir, afro-américain.
Ah, ouais. Ouais. Wow.
Et du coup, elle a expérimenté des petites scènes qui, moi, m'ont fait ricaner. Par exemple, on va au supermarché, elle fait les courses, elle paye, la caissière est noire, la caissière la regarde pas et me rend la monnaie à moi en me disant merci. Et donc ça, c'est le genre de truc, genre, non mais qu'est-ce que c'est que ces trucs, j'en peux plus. Genre, non mais peut-être qu'elle a pas fait exprès, hein, ça peut arriver, c'est pas forcément du préjugé ou de la haine, on peut pas savoir. Et puis, donc ça, c'est marrant de vivre de ce côté-là, parce qu'effectivement, en France, le couple mixte est tellement parfois encensé que tu te demandes si tu vas pas toucher une subvention, parce que grâce à votre couple, vous allez sauver la République,
vous allez
le vivre ensemble.
Éliminer le racisme.
Exactement. Et le deuxième truc, c'est que j'ai l'inverse, en fait, j'ai beaucoup de je travaille avec des touristes noirs américains qui viennent à Paris, qui veulent découvrir Paris. Et quand on parle pas de choses historiques, mais vos premières impressions sur la ville, 9 fois sur 10, c'est il y a quand même beaucoup de noirs et de blancs en couple qui se tiennent la main dans les rues de Paris. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Que fait
et
la police ?
En particulier de femmes noires avec des hommes blancs. Parce que voir des hommes noirs qui, de toute façon, black men and shit, et partent avec des latinas, des blanches, des asiatiques, ça on a l'habitude aux États-Unis, mais du point de vue. Enfin, d'être en France et de voir beaucoup de femmes noires avec des hommes blancs, c'est déjà quelque chose de plus surprenant. Mmh. Et je sais que ma chérie actuelle est une femme noire.
Ta chérie définitive.
Ma chérie définitive.
Ma cousine.
Pour toute
voilà.
La vie.
Est une femme noire. Si jamais je la mentionne à une femme noire américaine de mettons plus de 45 ans, je dis « my girlfriend ». Je peux dire ce que je veux derrière. Je peux dire, elle est, c'est un cosmonaute. Je peux dire tout ce que je veux. Elle m'écoute plus. Elle attend que je finisse ma phrase, et elle me fait, is she black?
Bah, bien sûr.
Est-ce qu'elle est noire? Et si je réponds oui, j'ai droit à des applaudissements, genre, yes! Bravo!
Ça fait peur. Ouais. Non, mais juste pour ça, on peut répondre à la question. Pourquoi les femmes noires réagissent comme ça, à ton avis?
Je sais pas. Je ne suis pas dans la tête des femmes noires.
François, t'as un avis ou pas ?
Sur ouais, pourquoi autant de, je sais pas, de, comme si elles avaient un cheval dans cette course, tu vois, comme si ça les affectait personnellement, la couleur de la personne avec qui j'étais en relation, alors que ce soit une femme blanche, noire, pas une femme, quelque couleur que ce soit, a priori, ça change pas leur quotidien.
Bah, c'est pas exactement la même chose que... Oui, c'est vrai que ça reste dans le sujet. Je sais pas. Il y a peut-être une forme de... Bah, comme les femmes noires ont tendance à être dévalorisées par les hommes noirs, forcément... Et que les femmes blanches ont tendance, au contraire, à être survalorisées et vues comme des trophées par les hommes blancs. Bah, tout simplement, lorsque les femmes noires voient un homme noir avec une femme blanche, ils vont se dire « Ok, c'est encore un de ces gars qui a tourné le dos aux sœurs, tout bêtement. » Mm-hmm.
Oui, je pense qu'il y a vraiment le côté standard de beauté où les femmes noires correspondent pas au modèle dominant. Et du coup, quand elles voient un homme noir avec une femme noire, elles se disent « Enfin, quelqu'un qui nous a vus...
Pour ce qu'on est
et qui nous valorise, quoi. Et généralement, effectivement, quand elles voient un homme noir avec une femme blanche, elles disent « Ah, il est tombé dans le piège !»
Alors du coup, c'est quoi finalement le truc qui t'a le plus marqué à propos de la différence, justement, quand t'es un couple mixte entre les States et la France, du coup ?
Eh ben, en fait, pour moi, j'ai vraiment eu l'impression que, comme les personnes métisses, les couples mixtes, ils sont vraiment à leur place nulle part, en fait. Ni là-bas, ni ici, ni en Afrique, parce que pour avoir été en Afrique, j'ai aussi entendu et vu...
En Côte d'Ivoire,
ouais. Ouais, faut préciser. En tout cas, en Côte d'Ivoire, et j'ai l'impression en Afrique de l'Ouest, épouser une personne blanche, c'est souvent vu comme une espèce de promotion sociale, quoi. En Europe aussi, mais ici, on l'habille un peu d'un vernis humaniste, quoi. C'est genre, mais non, toutes les couleurs ont le droit de se mélanger, tout va bien. We are the world.
C'est métis. Un mélange de coups, pardon.
Voilà. Et ça... Ceci, hein, malgré l'histoire quand même assez violente du colonialisme et qui est derrière, qui quand même découle sur notre présent, quoi.
Lisez le dossier de Libé à ce sujet, même si c'est vrai que l'usage des photos peut être problématique. Ouais,
les photos de gamines de 12 ans à poil.
Les jambes écartées. Ouais.
Ouais, mais lisez quand même le dossier sur le sexe et le colonialisme, vous allez forcément apprendre des trucs.
Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, pour en revenir juste aux US, j'ai l'impression que même dans la culture pop et même dans la politique, les couples mixtes, ça renvoie bien plus à l'histoire ségrégationniste américaine, en fait. Et je pense aussi, du coup, que c'est aussi pour ça que c'est vu comme une trahison, quoi, des deux côtés. Et que c'est pour ça que... voilà. Donc, ça m'a quand même fait pas mal réfléchir et je me suis dit, effectivement, que, encore une fois, t'es pas noir pareil. Que tu sois en Europe, en Afrique, aux États-Unis, et c'est intéressant de se poser cette question-là parce que le mec, je pense que les deux mecs, non, peut-être pas le deuxième, mais le premier en tout cas était sûr que j'étais américaine, afro-américaine, et je pense que c'est pour ça qu'il a parlé, qu'il a dit ça.
Mel, qu'est-ce que tu nous recommandes pour cet épisode ?
Qu'est-ce que je vous recommande ? Alors, c'est la rentrée, c'est le moment de se cultiver. Enfin, c'est la rentrée.
Les gens cool reviennent en octobre, voilà. C'est important de le dire.
C'est ça. Tout le monde attend ça quand même de pied ferme, mais Basquiat revient enfin. Jean-Michel Basquiat, exposition à la Fondation Louis Vuitton à partir du 3 octobre. 2018. Donc Basquiat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même un des peintres les plus importants, on va dire, des années 80. Il vivait à New York, ami de Andy Warhol. Il a commencé dans la rue. Il
d'origine haïtienne.
D'origine haïtienne, voilà. Hein, bah oui. Il vendait ses petites peintures dans la rue. Et petit à petit, il est monté en fait, dans les cercles de l'art aux États-Unis, jusqu'à être l'un des peintres noirs les plus proéminents,
les plus importants du XXe siècle.
Avec une carrière super courte en vrai, en plus, il est mort très jeune.
Il est mort à 27 ans.
Ouais, d'une overdose d'héroïne. Donc c'était quelqu'un d'assez torturé, mais ce que je pense, ce qui touche beaucoup les personnes noires avec Basquiat, c'est que justement, il s'envisageait vraiment comme un peintre noir. Et il disait waouh, je suis seul. Je suis riche, je suis célébrée, je suis reconnue, je fais ce que j'aime, mais je suis la seule personne noire que je connais à faire ça. Ouais, et donc pour lui, c'était quand même quelque chose.
Il défendait ses héritages latinos aussi.
Ouais. Beaucoup d'influence en termes de couleurs et même de thématiques sur ça. L'exposition, ça couvre 80 à 88. Il y a 120 œuvres qui sont mises à disposition. Donc c'est des œuvres décisives. Donc c'est sûrement des choses que vous avez déjà vues parce que l'art de Basquiat a été vachement repris. Il y a beaucoup de posters, beaucoup de trucs,
de t-shirts.
Il y a un documentaire sur lui qui est dispo gratuitement sur YouTube qui s'appelle Radiant Child, qui le montre en train de peindre et qui le montre en train de parler quelques mois avant sa mort. Donc c'est quand même assez intéressant. Et sinon, je recommande aussi la biographie de Michel Nuris-Dany qui s'appelle Jean-Michel Basquiat. Donc ça raconte vraiment le début, du début jusqu'à la fin de son ascension. Il y a aussi un portrait de son père, parce qu'il avait une relation assez compliquée avec son père, qui au début ne voulait pas qu'il peigne, et puis au final, à la fin, s'est approprié tout son héritage, et a dit « Ouais, en fait, mon fils, c'était un génie. Enfin, » Bon, du coup, c'est une figure hyper intéressante. Moi, je trouve que c'est une figure hyper touchante, et puis ça faisait très longtemps que j'attendais qu'il revienne à Paris. Je sais qu'il y avait une expo en 2010, donc il était temps. Voilà, allez-y, Fondation nice, Louis Vuitton.
Moi, j'ai deux recommandations. La première, c'est une série documentaire qui s'appelle Migrant Sound.
Fast forward to 2018, when the scandal broke.
This is a day of national shame.
Ah, David Manu.
And it has come about because of a hostile environment policy that was begun under her prime minister. Yeah. If you lay down with dogs, you get fleas.
I remember my mum calling my nanny to make sure that she had her papers in order. Like, a lot of people were scared, but it's ongoing. People are still being affected by this.
L'extrait qu'on vient d'entendre, ça fait vraiment écho à plein de choses, principalement à la génération Windrush. On avait déjà parlé il y a quelques mois, j'avais décerné un iconique au discours du député anglais David Lanny, qui s'était indigné des expulsions de Caribéens arrivés légalement sur le territoire britannique. Donc, Migrant Sound, qu'est-ce que c'est ? C'est une mini-série docu en 4 épisodes, disponible sur YouTube. De quoi ça parle ? De l'apport culturel des communautés caribéennes au Royaume-Uni et aussi de la violence rencontrée à leur arrivée dans les années 50, 60, 70, 80, etc. Terre relativement hostile. C'est aussi très bien détaillé d'ailleurs dans le livre de Rennie et Dolodge sur les ouais. moments, même des ratonnades. On est loin de se douter de ça, mais l'accueil qu'ont connu les immigrés jamaïcains, trinidadiens, barbadiens, etc.,
ah ouais.
ça a été assez rude. Donc, tout ça, le documentaire Migrant Sound, il est constitué d'images d'archives, de témoignages de ceux qui ont fait cette culture et de leurs enfants aussi, qui sont nés au Royaume-Uni. Je vous conseille d'activer les sous-titres sur YouTube.
L'accent britannique, britannico-jamaïcain.
C'est pas l'anglais de la reine, c'est pas non plus l'anglais des talk-shows américains.
Music is the most important factor in a life for you, man.
Maman.
You know what I mean? Music lead you. In the 70s, you know, you have to understand, say, Bristol is one of the racist places in England, you know. But truly, have a thing I go on now, you have a club, you know, it open Bamboo Club.
Ah ouais, on dirait Spraga Benz, quoi.
It was the first black pub in the country. As a teenager, I used to go every weekend.
Yeah, bro.
Il est génial, cet accent.
Ouais.
Ça ressemble à l'accent jamaïcain, en fait.
Donc, ouais. Ça dépote. Ça met bien en perspective l'énorme apport de ces communautés dans la culture britannique. Les techniques et les rythmes venus de la Caraïbe se sont plutôt bien insérés dans leur culture nationale. J'essaye pas de vendre le modèle britannique, c'est juste un modèle différent du nôtre. C'est produit par Boiler Room. Si vous connaissez pas Boiler Room, ouais, c'est bon. Très cool. Ouais, c'est ils sont
vertical musical de Red Bull.
Mais à la base, ils sont pas nés.
Okay, d'accord,
ils sont
d'accord.
Pas. Ils sont maintenant avec Red
ils
Bull.
Ils sont
fait. Okay, voilà.
Ils streament des concerts de musique, principalement indé. C'est très varié. Ça va de Skepta à Ketranada, en passant par Jamie XX. Donc, je vous recommande ce documentaire sur l'apport de la communauté caribéenne, des communautés caribéennes en Angleterre. Et puis, pour finir, ma dernière recommandation, c'est si vous êtes à Bruxelles les 19 et 20 octobre, il y aura une rencontre au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles sur le Black Travel, sur le voyage noir. C'est dans le cadre d'un projet qui s'appelle This Othering et qui couvre tout un tas d'événements qui se tiennent entre septembre 2018 et fin 2019 entre Berlin, Bruxelles, Vienne et Varsovie. Moi, ce dont je vous parle précisément, c'est un week-end de débat et de performance dédié à la notion de voyage noir proposé et présenté par Johnny Pitt, qui est une personnalité de la télévision britannique et auteur de la publication Afropian Documenting Black Europe. L'idée, c'est de complexifier un peu un domaine jusqu'ici largement ancré par des récits blancs, masculins et hétérosexuels. hétéronormatif et célébrer le regard d'un groupe diversifié de voyageurs souvent négligés. Ça a l'air cool. D'ailleurs, j'y participerai le 20. Je serai présent à un panel.
Donc.
Hashtag autopromo.
C'est pour ça que tu recommandes.
J'y participerai donc le 20. Je serai présent à un panel en anglais sur comment faire pour décoloniser le voyage. Si ça vous intéresse, je vous renvoie vers le site des Beaux-Arts de Bruxelles, bozar.be, et ça coûte 12 euros. Voilà.
Alors moi, ma recommandation, c'est un mini-docu sur Netflix qui s'appelle Black Survivalists, les survivalistes noirs. Sur Netflix, il y a une série qui s'appelle À suivre, qui en fait est une série de reportages réalisés par des journalistes de BuzzFeed US. Donc si vous aimez par exemple...
C'est encore du taf, pardon.
C'est pas gentil.
C'est bas.
On vous fait des bisous.
Si vous connaissez en bref de Vox, vous savez, qui est une série mini-docu, Explain en anglais, ben c'est un peu similaire, c'est un peu plus incarné parce que là par contre il y a des journalistes qui se mettent en scène et qui font des reportages, donc c'est un peu plus humain, un peu plus chaud, c'est pas mal du tout. Et donc ce reportage Black Survivalist suit une journaliste de BuzzFeed appelée Bim Adewunmi qui s'intéresse en fait au phénomène des Doomsday Preppers, les survivalistes, vous savez, les gens qui pensent qu'il va y avoir une guerre mondiale, catastrophe nucléaire, catastrophe écologique, bref, que le monde arrive à sa fin et qu'il faut être prêt à ce moment-là, faire des provisions, apprendre à être autosuffisant et à se défendre, des choses comme ça. Et ces gens-là, donc les Doomsday Preppers, on les imagine souvent blancs, masculins et hétéros. Mais en fait, depuis une série d'événements tels que l'ouragan Katrina ou la crise de l'eau à Flint dans le Michigan ou alors l'ouragan Harvey, disons qu'il y a de nombreux Afro-Américains et de nombreux Latinos et de nombreux membres de minorités et de personnes racisées qui commencent à se dire que ouais, en fait, si l'apocalypse arrive demain, surtout en plus compte tenu de la façon dont ils sont pris en compte par l'administration Trump et par l'État, si demain les institutions s'écroulent et que l'apocalypse arrive, faudra peut-être qu'on se prépare aussi parce qu'on sera pas forcément les mieux préparés, quoi. On sera pas forcément les mieux lotis, puisque finalement ce sont les communautés les plus vulnérables. Et du coup, elle, Bim Adewunmi, a vécu avec plusieurs survivalistes et elle raconte un peu la façon dont ils voient le monde et dont ils se préparent. Donc c'est super intéressant. Nous aussi, les Noirs, on a droit à l'apocalypse, merde. Ça dure 16 minutes, c'est sur Netflix, c'est gratos. Allez-y, foncez. C'est cool.
Nice. C'était le Chip, on revient dans deux semaines. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram sur @lechippodcast. Évidemment, le flux va changer, donc réabonnez-vous. Merci. Et puis, merci de vous réabonner.
On vous mettra la presse sur Twitter, on vous repostera le nouveau flux, non ?
N'hésitez donc pas à diffuser un ami de la couleur de votre choix. Laissez-nous une review sur Apple Podcast et mettez-nous 5 étoiles pour nous faire remonter dans le classement le podcast. Podcast Game, la famille, gang, vous savez, ça fait plaisir. Cette émission est réalisée par Quentin Bresson, qu'on remercie. Et puis, vous avez un mot de fin, quelque chose à ajouter ?
Merci à Schkid pour le générique et merci aux gens qui ont répondu au sondage sur Twitter. Ça fait longtemps qu'on voulait faire ça et c'est vraiment cool. Je trouve ça cool qu'on puisse faire ça.
Et puis, c'est reparti pour une saison, non ?
C'est reparti pour une saison. On va vous mettre bien, vous allez nous mettre bien, ça va être cool.
On va tous se mettre bien.
Et voilà. Et à très, 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 très vite. Et si vous avez des commentaires, des suggestions, quoi que ce soit, voilà.
Lâchez vos coms.
Bisous.